Bienvenue dans l'émission 30 minutes de bonheur. Nous allons passer 30 minutes ensemble à semer des graines que vous pourrez arroser et voir grandir. Nous nous retrouvons tous les vendredis à 9h10 des semaines impaires afin de cultiver votre jardin intérieur. Bonjour Sophie.
Bonjour Émilie. Et oui, auditeurs et auditrices, vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Bruno. C'est la deuxième fois qu'il vient dans l'émission. Il vient nous présenter son deuxième livre. Donc bonjour Bruno.
Bonjour à vous les filles, bonjour aux auditeurs.
Et en plus de son livre, on aura une surprise. On fera une petite coupure de musique et il va nous expliquer comment on écrit un livre, lui qui a justement un retour avec ce deuxième livre. Comment on trouve un auditeur, comment ça se passe, d'accord?
Sans souci.
Comment ça s'est passé déjà ce deuxième livre? Comment tu as trouvé l'idée?
Eh ben déjà, le deuxième livre n'était pas encore commencé à être écrit, que j'avais déjà le retour des premiers lecteurs du premier. Mmh. Et plusieurs m'avaient dit « Oh, c'est vraiment bien, ça mériterait une suite ».
Donc tu peux nous rappeler déjà le titre du
premier
livre?
Oui, le premier s'appelle « Deux retours » de Jacques Hanna. Et donc je l'ai écrit en 2021. Et puis, en 2022, retour donné des lecteurs en me disant « Ah, ce serait bien de suite ». J'avais déjà appris le virus d'écrire en me disant « Je vais écrire », mais je n'avais pas forcément prévu une suite. Le deuxième livre, c'est toujours avec le même personnage, quelques années après, mais ça peut se lire indépendamment.
Ah oui.
Ceux qui n'ont pas lu le premier peuvent aussi se retrouver avec le deuxième tout seul, parce qu'on ne retrouve que lui, en fait, à peu près, comme un part au tout début, avec deux, trois personnages, et après c'est terminé, quoi. Donc, c'est avec des nouveaux personnages. Alors, pourquoi cette histoire? Alors, ce livre s'appelle « Disparition à Bryce Canyon ». Alors, pourquoi? Tout simplement, c'est un lieu que j'ai adoré parce que j'y suis allé.
Alors, peux-tu nous dire où ça se trouve?
Alors, Bryce Canyon, ça se trouve aux États-Unis, sur le terrain des Navajos. C'est dans l'Utah, c'est juste avant d'accéder vers la Californie. Il y a des endroits sublimes. Alors, on connaît tous Monument Valley, qui est magnifique, avec ses paysages avec les films de John Ford. Et il y a ce Bryce Canyon, dont on parle le moins, mais qui est aussi magnifique. Des paysages lunaires, on va dire. Et toutes les pierres, ça sont rouges. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et je me suis dit, il faut que je trouve une histoire qui se passe là-bas. Et puis, j'adore les Indiens. Donc, l'inspiration, ça y est, je me suis dit, je sais. Alors, comment faire pour trouver une histoire?
Donc, ah oui.
Il faut trouver un prétexte. Donc, au début, on retrouve donc mon personnage, qui est revenu en France, pour ceux qui ont lu le premier. Mmh. Il est installé tranquillement, il est devenu d'un vignoble bordelais, et avec sa famille. Il est sous la protection de celui qui l'a ramené, qui était propriétaire de ce vignoble. Donc, tout va bien. Et ils ont pris l'habitude, certains soirs, après le dîner, de se retrouver dans une sorte de bibliothèque commune pour discuter, prendre un petit verre de cognac ou d'armagnac avant d'aller se coucher. Et donc, il va rejoindre son ami et, stupeur, il le retrouve inanimé dans son fauteuil avec une lettre à la main. Et dans la lettre, on apprend que le fils aîné de cet ami, qui est paléontologue, a disparu à Bryce Canyon. Et Pierre Scotto va donc partir à sa recherche.
Donc, il y a du suspense.
Voilà.
Oui, est-ce qu'on pourrait dire que c'est plus un livre d'aventure?
C'est un livre d'aventure. J'ai même mis un peu de suspense, mais ce n'est pas un policier. C'est vraiment de l'aventure. On retrouve, comme dans le premier, des éléments fictifs, mais aussi des faits historiques et géographiques réels.
Je voulais te demander justement, comment tu procèdes? Tu te documentes juste par rapport à des faits historiques ou, voilà, comment
oui.
Est-ce que tu peux nous donner un peu ta méthodologie?
D'abord, quand j'ai l'idée dans ma tête, me fais, comme pour le cinéma, un synopsis. Donc, de quoi je vais parler? Et puis, à partir du moment où ça s'est bien établi, alors même s'il y a des événements que je n'ai pas forcément prévus, que je ferai au fur et à mesure de la lecture. Mais le gros de l'histoire, je l'ai dans ma tête. Donc, je sais que si je veux faire passer par tel endroit, et quand je vais voir aussi, le temps qu'on met pour se déplacer à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de voiture. Donc, il faut que je recherche quels étaient les moyens, quel était le temps aller à cheval de tel endroit dans l'endroit, ou s'il fallait prendre le train. Un exemple tout bête. Quand il part de Bordeaux, s'il veut aller aux États-Unis, il faut prendre le bateau. Mmh. Et le bateau, il faut qu'il le prenne au Havre. Mais déjà, il faut qu'il prenne le train de Bordeaux jusqu'à Paris. De Paris, il prend un autre train pour aller jusqu'au Havre. Et après, au Havre, on prend le bateau. Alors déjà, tout ça. Alors, le début du bouquin, les premiers temps, on va voir Pierre Scotto et un de ses amis, il ne va pas partir tout seul. on va voir un petit peu leur expédition à Paris. Donc, vous en profitez un petit peu du Paris du 19e siècle, où ils vont sortir un peu, ils vont aller aux Folies Bergères, etc., etc. Et puis après, il va avoir l'aventure sur le bateau. Donc, il va se passer, parce que sur un bateau, il faut prendre des jours et des jours sur le bateau. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose.
Oui,
donc, ils vont rencontrer des gens. Et puis après, ça va être l'expédition pour aller de New York. Donc, on va aussi voir comment était New York au 19e siècle, pour aller jusqu'à Bryce Canyon. Il faut arriver à peu près à la moitié du livre pour se retrouver à Bryce Canyon.
Il ne faut pas oublier de dire que quand même Bruno, c'est un ancien professeur de français et d'histoire géo aussi.
Oui, bien sûr.
Voilà, ça, donc il y a ces deux métiers qu'il met pendant sa retraite. Voilà, il continue.
Oui. Oui, puis pourquoi ce genre de roman? Parce que justement, ça, je sais l'écrire, ça me passionne. Et à un moment, je me suis dit pourquoi je n'écrirais pas des romans, genre romans d'anticipation. Mais je pense que je serais vite bloqué, quoi.
Mmh. Oui, parce que c'est ce que tu sais et aimes faire, voilà. Finalement.
Par contre, je ne veux pas tout dévoiler, mais si je vais sûrement sortir aussi un recueil de nouvelles et de poésie. Et dans les nouvelles, par contre, je peux écrire, par exemple, des nouvelles d'anticipation, parce que c'est sur 8-10 pages. Voilà, ça peut être intéressant. Mais sur un roman, non, je pense que je ne tiendrai pas la route.
Et là, justement, dans ton livre, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, justement, d'écrire? C'est que tu voyages en même temps, justement, là, tu étais projeté au 19e siècle, ou c'était quoi là?
C'est la même chose, je dirais, que quand on lit, qu'on est dans son livre. C'est-à-dire qu'on est avec les personnages, on est ailleurs, quoi, carrément.
Tu étais un Indien, tu étais...
Oui. Bon, j'étais un peu, surtout Pierre Scotto, parce bien sûr, mais aussi... on s'inspire aussi pour des personnages de gens qu'on a fréquentés ou qu'on connaît. D'ailleurs, dans un chapitre, il y a quelqu'un que je connais bien et c'est parti d'un pari. On parlait déjà de ce bouquin. Et il était pas, je commençais à écrire ou même pas. Après quelques bières, il me dit comme ça, « Ah, ce serait marrant, tu parles de moi dans ton livre. » J'y chiche.
Et donc, tu as réussi à l'intégrer.
Il est dans mon livre, il s'est reconnu.
Il s'est reconnu. Ah, génial, c'est super. Et autre question que j'avais. Ah oui, est-ce que tu cites ce que j'avais bien aimé? Alors, j'ai pas encore lu le deuxième livre, que ça y est, hein, je vais l'avoir dans les mains là. Mais dans ton premier livre, j'avais aimé justement que tu cites, tu sais, des livres qu'on pouvait aller lire, de la culture en fin de compte.
Oui, un petit peu, mais ce que je fais aussi, c'est qu'il rencontre aussi des personnages célèbres. Au début, quand il est à Paris, il va rencontrer Edgar Manet. Okay. Le peintre. Il va rencontrer un président des États-Unis qui a existé. Et il va rencontrer aussi, dans le train, un écrivain américain qui s'appelle Mark Twain.
Voilà, donc tu y mets aussi de la culture. Bien sûr, j'avais bien aimé, parce que c'était facile à lire et en même temps, ça permettait de se rendre accessible, tu vois, des choses qu'on ne penserait pas.
J'ai gardé cette idée de rendre accessible la lecture. Mm. Que les gens aient le plaisir de lire et...
Et puis d'apprendre des choses en même temps.
Voilà. Puis il y a toujours un petit peu d'humour aussi. Il mange toujours bien.
Ça, c'est l'écrivain qui parle.
Bon, en fait, c'est plutôt... Comme tu dis, si c'est toi qui te mets dans le personnage, en fait, c'est comme si c'était toi, en fait, ce personnage.
Presque. Pas pour tout, mais pour beaucoup de choses, oui. Comme m'avait dit, parce que j'ai eu, pour le premier, j'ai eu trois interviews de radio. Deux à la Radio G et un dans une autre radio. Troisième interview, c'est le seul point commun qu'il y a eu dans les trois interviews. C'était toutes différentes. Mais à chaque fois, la question, c'était « Est-ce qu'il y a de Bruno Liongo dans Pierre Scotto ?» Alors, les deux premières fois, je dis « Oui, toujours un peu, comme je viens de vous dire. » Et la troisième fois, je dis « Si je vous dis que mon deuxième prénom, c'est Pierre, est-ce que j'ai répondu à la question ?»
Ouais, donc voilà, vis à travers tes livres
des
histoires que tu aurais aimé, aimé vivre.
Bon, ce qui est difficile, c'est pour la personne qui est autour de toi, hein, qui vit avec toi quand tu écris. Enfin, je pense que tous les écrivains diront ça.
Pourquoi tu dis ça? Tu
peux nous en dire plus? Parce que quand on écrit, on est tellement dedans, comme si on vivait une aventure, que si on te dit, on va à table à quel moment où il est temps de faire des courses,
Ouais. Et t'as mis combien de temps justement pour l'écrire plutôt?
Pas beaucoup non plus, mais un petit peu plus que le premier. Le premier, j'ai mis 5 mois, le deuxième, 8 mois.
D'accord. Et est-ce que t'as fait comme la première fois, tu l'envoyais, donc je me rappelle, c'était à ta sœur et à un copain, t'envoyais tous les chapitres?
Oui, j'ai envoyé qu'à ce copain.
D'accord. Ta sœur, tu ne l'as pas conviée en fait?
Je ne l'ai pas conviée parce que, déjà, elle vivait des trucs un peu difficiles, donc c'est pour ça. Mais ça veut pas dire que je ne le ferai pas. Mais je me suis dit, tiens, une seule vision, c'est peut-être aussi bien, c'est plus rapide. Et puis, bon, je savais que lui, en plus, il vient juste d'être en retraite, donc je savais qu'il est du temps. Donc, il pouvait régulièrement, d'ailleurs, il est extraordinaire, c'est que je lui envoie quoi, le soir ou le lendemain, j'ai déjà la correction.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc toi, tu pouvais avancer beaucoup plus vite.
Voilà. D'ailleurs, je lui ai fait une petite dédicace à la fin des remerciements. Il est dedans, hein, forcément. Mmh. Mais j'aime pas dire que c'est mon nègre, j'aime pas le terme.
Et justement, par rapport, tu vois, c'est aux 30 minutes de bonheur, il y a des choses justement qui est liées au bonheur, qui est dans le livre.
Ben, si tu te rappelles, dans le premier, il y avait quand même beaucoup de rapport avec le bonheur. Oui. Bon, on le garde encore, surtout quand il va côtoyer les Indiens. Mm. Parce qu'on voit, on peut encore se dire, est-ce qu'ils n'étaient pas heureux comme ça, au lieu de. On les obligeait à vivre comme les Amériques. Et puis, ben, à la fin, mon personnage se rappelle une citation, c'est la dernière phrase du livre. Phrase que j'aime beaucoup, qui est d'un philosophe connu qui s'appelle Saint-Augustin. Et voici ce qu'il dit, je ne retrouve pas la page, je me suis trompé. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède.
Tout est dit. Et ben sur ce, on va couper avec une musique que Bruno a choisie. Tu peux nous dire quelle musique tu as choisi ?
Eh ben, comme ça se passe dans l'Ouest américain, ça me semblait évident qu'on allait mettre une musique de Ennio Morricone. Et là, c'est la musique de Le Bon, la Brute et le Truand.
À tout de suite. Nous sommes toujours avec Bruno qui nous parle de son deuxième livre, La disparition Bryce Canyon. Canyon, ouais, je lis bien.
Oui, c'est ça, Bryce Canyon.
Donc, on va continuer l'émission en parlant un peu plus comment on écrit un livre, comment on peut éditer un livre, parce que nous, dans l'émission 30 minutes de bonheur, on est rendu à notre troisième écrivain.
Oui,
surtout
près,
que là, troisième émission coup sur coup. C'est des gens qui ont écrit des livres. Là, maintenant, je serais curieuse de me dire, mais comment vous faites pour les voir en librairie ou sur les réseaux, tu vois, comment... Est-ce que toi, tu peux nous partager justement cette expérience ?
Alors, au début, je suis parti de là totalement en vierge, sachant pas du tout ce qui m'attendait. Déjà, quand j'ai décidé de choisir un éditeur, lequel ? Vous allez sur Internet, il y a des centaines et centaines d'éditeurs. Lequel choisir ? Pourquoi un tel ? Quels sont les services rendus et tout ? Alors, je peux dire, avant de vous dire comment j'ai trouvé l'éditeur, il y a deux possibilités. Il y a soit faire ce que j'ai fait, chercher un éditeur, ou il y a aussi certains qui se auto-éditent. Tout dépend de ce que tu veux investir financièrement et aussi quel public tu veux toucher.
Donc si tu peux nous donner la différence
un petit peu. Par exemple, si tu veux écrire un livre qui va concerner par exemple la région, tu sais que ça ne va pas forcément intéresser beaucoup de gens hors du Maine-et-Loire, tu peux dire éventuellement je peux m'auto-éditer ou trouver un petit éditeur local, ce qui coûtera beaucoup moins cher. Enfin, il faut quand même investir de l'impression et tout ça.
Et comment ils peuvent imprimer justement comme ça quand on s'auto...
Bah, des fois, il suffit de connaître quelqu'un qui est un peu dans tout ce qui est presse, édition, etc. Et ça coûte quand même peut-être moins cher qu'une maison d'édition.
D'accord.
Et puis, si on veut, je veux dire, on va essayer de s'occuper de moins de choses, mais que ce soit bien fait, cherche un éditeur. Alors, si vous visez des grandes éditions genre Flammarion, Albin Michel ou Grasset, vous avez intérêt déjà à écrire un chef-d'œuvre dès le départ. ils vont vous demander plein de choses. Ils vont même vous demander d'avoir le livre avant, etc. Enfin bon, c'est très, très compliqué et il faut attendre très longtemps. Et puis après, donc, on cherche des éditeurs. Moi, j'avoue, le mien, c'est un pur hasard. Pur hasard, j'ai d'abord lu ce qu'il proposait. Je l'ai choisi d'abord parce qu'il s'appelait Édition Baudelaire et que mon personnage, au début, est censé avoir rencontré Baudelaire. Je me suis dit, quelle coïncidence!
C'est un signe. Ouais. Hein, Bruno, il est habitué au signe maintenant grâce à l'émission.
Et quand j'ai vu qu'il précisait qu'on pouvait envoyer son roman sous forme en clé USB, en téléchargement, sous les 15 jours, il nous répondait. Je me dis, qu'est-ce que je risque? Ils ne me prendront sûrement pas, mais au moins je saurai ce que ça vaut. Et effectivement, 15 jours après, je reçois un mail et, aux surprises, ils me disent, notre comité de lecture a retenu votre livre et ils m'envoient un contrat. J'ai dû relire 10 fois le mail. Et je les ai appelés pour, d'abord pour, avant de signer, voir si j'avais bien compris le contrat. Et aussi, pourquoi ils avaient pris mon livre.
Et quand tu dis signer un contrat, tu peux nous en dire plus?
Oui,
qu'est-ce que ça engage
vis-à-vis? Voilà, il s'engage, exactement. Il s'engage donc à éditer le livre après maintes et maintes corrections, envoi, etc. À proposer des couvertures. Tu dis ce que tu veux, il te propose des couvertures et tu choisis la couverture. Il s'occupe de toute la promotion du livre auprès des organes de presse, c'est-à-dire les journaux, les radios, les magazines, les librairies de la région. Et aussi les partenaires, alors qui ça va beaucoup plus loin, puisque eux, ils sont partenaires avec la librairie de Cise, avec Amazon, Decathlon.
Ça fond la forme.
Cultura et Fnac, bien sûr.
Ah d'accord, donc quand on retrouve par exemple ton livre à la Fnac, c'est parce que c'est l'éditeur qui l'a proposé.
Voilà,
d'accord.
Mais ils peuvent aussi, alors la Fnac, Angers, elle n'a pas mis mon bouquin en devant. Mais par contre, si vous lui demandez, ils l'ont en réserve.
Ok.
Ouais, c'est ça.
On peut le commander.
On peut le commander. Oui, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que je dis aussi, quand les gens me disent on peut le commander Fnac, Amazon. Je dis oui. Mais alors, ce qui serait sympa, c'est vraiment de mettre après un avis. Parce que je commence à avoir des avis, notamment sur le site de la Fnac, et c'est intéressant parce que ça booste un peu les ventes et ça donne idée pour ceux qui découvrent par hasard. Ah bah tiens, ça doit être bien.
Ouais. Mais toi, tu as plus un avantage qu'on te les achète en direct ou qu'on les achète
Plus d'avantage quand c'est justement commandé. Parce que là, par exemple, quand on achète en direct, j'ai racheté mes livres à maison d'édition.
D'accord.
Après, je me fais rembourser directement. Mais ils ne sont pas comptabilisés dans mes ventes par rapport officiellement. Quoi. C'est assez compliqué. C'est... Ouais. Alors, je continue par rapport à la question sur qu'est-ce qu'il y a dans le contrat. Donc, dans le contrat, ça veut dire que je crois que c'est 3 ans, il s'engage à toujours, s'il n'y a pas demande à sortir le premier, par exemple, il a 3 ans, c'est sûr qu'il sera toujours édité. Mais quand je dis toujours édité, ils en éditent 300. Et après, au départ, 300.
D'accord.
Et après, s'il y a des demandes et qu'il ne leur reste plus beaucoup, ils en rééditent encore par 300. Ça se passe comme ça. Si je fais des dédicaces dans des librairies, là, je n'ai plus besoin d'acheter des bouquins. Je vais dans les librairies, je fais remplir un papier comme quoi ils en ont commandé, par exemple, je dis n'importe quoi, 12. Je fais des dédicaces. Imaginons que j'en vends 8. Ils déclarent qu'il y en a 8 de vendus. Et après, soit ils renvoient les 4 qu'ils n'ont pas vendus, soit ils les achètent et les gardent en rayon.
Ah, ça t'évite, toi, de les acheter en fin de compte.
Ouais, j'ai rien à faire. Juste de donner la feuille pour remplir, c'est tout.
D'accord.
Et du coup, t'as, donc, dans ce contrat, auquel, donc, là, tu as des avantages, mais toi aussi, donc, derrière, tu as quelque chose à régler, à payer, ou comment ça se passe ?
Non, j'ai rien à faire.
D'accord.
J'ai rien à faire du tout. Alors, par contre, pour savoir combien j'en ai vendu, je croyais que, je ne sais pas, moi, chaque mois, j'allais un relevé ou autre. Non, on attend un an. Et au bout d'un an, on sait combien on a vendu de livres. Officiellement. Alors, moi, après, je cumule ce qu'ils me donnent et ce que j'ai vendu seul.
Et là, justement, tu vois la différence entre ton premier livre et ton deuxième livre. Tu te débrouilles différemment.
Ah oui,
tu
suis beaucoup plus à l'aise parce que maintenant, je sais comment procéder. Et je touche de plus en plus... alors, les réseaux sociaux, c'est évident, faut y aller, faut bassiner. Et puis aussi, pour les lieux, je commence à sortir un petit peu d'Angers et à viser des lieux, alors pas forcément des librairies. Alors, j'ai essayé quelques librairies parce que j'avais tendance, qu'on ne connaît pas, à viser d'abord les grandes librairies, genre Richer, Contact, etc. Bon. Et en fait, ils sont tellement envahis de bouquins et tout qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des auteurs locaux. Par contre, avec des recherches, et grâce notamment à Angers ma ville, parce que j'ai fouillé pas mal, je découvre des petites librairies de quartier, des choses comme ça.
Comme à Montreuil-Juny, il y en a une qui s'est ouverte, à la Madeleine aussi.
À la Doutre, l'Étincelle, etc. Donc, y a pas, donc j'ai sollicité ces bibliothèques-là, et donc là, je suis en pourparlers pour éventuellement faire des dédicaces ou des rencontres dans ces librairies-là. Et aussi, alors... Il n'y a pas que pour la vente, il y a aussi pour ce qu'on fait là, c'est-à-dire transmettre un petit peu le plaisir d'écrire, comment ça se passe, répondre à des questions, tout. Donc je suis aussi suscité par des établissements scolaires.
Ouais, et puis par ton profession, peut-être, c'est peut-être plus facile aussi.
Aussi, oui, et puis ça peut être aussi pour permettre à des jeunes d'avoir envie, quand ils ont l'auteur dans eux, qu'ils leur parlent un peu de l'histoire, puisque c'est de l'aventure, que ça se dit bien. Ça peut leur donner envie un petit
de s'exprimer,
Voilà. Et ça, c'est via ta maison d'édition.
Non,
ça c'est toi.
Ah ouais, parce que oui, alors ça, excuse-moi, on est parlé du contrat.
Oui.
le contrat, donc c'est ça. Comment dire, je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a quand même...
Non, mais après, c'est pas, pages, c'était dans, les, gros, dans les grandes lignes.
Alors, ce que
ça,
dire...
En gros, les avantages que ça a de travailler avec une maison d'édition et la différence entre la maison d'édition et l'auto-édition.
Bien avec, alors, cette maison d'édition, je peux le dire, se trouve, son siège est à Lyon. J'ai aussi un bureau à Paris, mais c'est le siège principal est à Lyon. Et ce qui est bien, c'est que, quelle que soit ma question, mon problème ou autre, je les appelle, ils me répondent tout de suite et ils réagissent. Alors, aujourd'hui même, j'étais un peu paniqué parce que j'avais commandé depuis longtemps, c'est tout bête, un démarque-page, parce que quand on voit, et je ne les ai toujours pas reçus. Et surtout, je fais une séance dédicace vendredi prochain.
Non, enregistré, donc ça sera passé, mais c'est pas grave.
Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Enfin, donc vendredi, et il se trouve que j'ai toujours pas reçu mes livres. Il m'en reste quelques-uns, mais je pense que j'ai pas mal de chances d'en vendre. J'ai peur de pas en avoir assez. Et je viendrai avoir la réponse ce matin, comme quoi c'est livré demain.
D'accord. Parce que là, tu seras où ?
Je serai dans un endroit que j'avais fait déjà l'année dernière, qui n'est pas une librairie, c'est tout simplement une brasserie.
Ah oui, d'accord, la brasserie de bière.
Non, oui, c'est ça, exactement. Bah oui, d'accord. C'est une brasserie, c'est de bière.
Oui, bah oui, non, mais...
Bon, je vais dire Boulard de Romanerie, parce qu'on ne peut pas faire de pub sur le lieu, mais... Et l'année dernière, j'ai fait deux séances, j'ai vendu quand même 20 livres. C'était extraordinaire.
Ah, super.
Puis surtout, ce qui était intéressant, c'est la rencontre avec les gens.
Oui, c'est ça. Toi, qu'est-ce qui te plaît, en fait, sur les...
Moi,
sur les séances de dédicaces.
Ah, c'est extraordinaire. J'avais déjà fait un salon, alors c'était à Jules Verdeil, c'était sympa, là, j'avais déjà rencontré des auteurs, j'avais jamais rencontré d'autres auteurs à l'époque, donc ça c'était super. J'en ai fait une autre, là c'était à Vrier sur deux jours au château de la Perrière, alors là on était 60 auteurs et 1300 personnes qui sont venues, et ce que je retiens surtout c'était l'entente dans la salle où j'étais avec les autres auteurs, on a gardé des liens, d'ailleurs il y en a un que je vais le voir bientôt, enfin c'est super les échanges, puis aussi avec les gens qui viennent te poser des questions, qui voilà. Et alors, grosse surprise, une semaine après, j'ai fait un marché de Noël. J'étais le seul auteur, d'ailleurs. Les autres, c'était des bijoux, des poteries, des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, ça va être sympa. J'étais en vente que 3 ou 4, mais échanger avec les gens. Et ben, j'ai quand même vendu 10 livres.
Ah oui. Là, tu sens que le deuxième, il part plus que le premier.
Il part plus rapidement,
Oui. D'accord.
Oui, tout à fait.
Et les gens veulent acheter le premier quand ils achètent le deuxième
j'ai
ou...
les deux. Alors, il y a eu beaucoup qui ont acheté le deuxième.
D'accord.
Mais pas forcément parce qu'ils ont acheté le premier, mais... Alors, beaucoup disent « Oh, je suis allé là-bas à Brass Canyon. »
Ah,
beaucoup
d'accord.
Ça, hein. Et puis, certainement, j'ai acheté les deuxièmes. Les deux, pardon. D'ailleurs, je leur fais un petit cadeau, ceux qui prennent les deux.
Oui.
Voilà, je baisse un peu le prix, parce qu'il faut quand même mettre 35 euros hein, pour deux livres.
Petit côté commercial.
Ouais. Donc je dis les deux pour 30, allez, ça va. Je perds un peu d'argent, mais je gagne des lecteurs.
Et est-ce que tu veux nous dire combien tu en as déjà vendu du premier ou
oui,
pas,
le
ou
premier,
c'est secret.
Le premier, non, je peux dire. Le premier, j'en ai vendu autour de 500.
Ah oui.
Au début, j'étais déçu parce que je m'attendais au moins 1000. De toute façon, pour me rembourser, il fallait que je revende au moins 1000.
D'accord.
Donc je me suis à moitié remboursé.
Pas mais quand tu frais. Dis te rembourser, donc ça veut dire que tu engages des frais.
Ah, j'engage des frais. Par exemple, tout ce qui est édition, etc., ça me coûte près de 2000 euros. Quand même.
D'accord. Pour chaque livre.
Pour chaque livre.
D'accord.
Et après, il y a aussi ce que j'achète. C'est-à-dire quand je rachète des livres pour les vendre comme ça, quand j'achète des marque-pages, tout ça.
Oui, ça te fait un petit voyage.
Ah oui. Mais bon.
C'est une passion.
À la limite, après, on oublie ce que ça t'a coûté. C'est tellement le plaisir de ce qu'on fait.
Et si c'est en auto-édition, alors du coup, c'est plus cher.
Ça dépend.
D'accord.
Ça dépend. Ça dépend de la chance qu'on a. Il suffit qu'on connaisse quelqu'un qui sache publier, etc. Éditer. À celui qui ne sait pas, effectivement, ça va lui coûter très cher, quoi. Ou alors il va en publier, mais il va en vendre quoi, 50 ?
Ok, donc en tout cas, il faut avoir en tête que si on a envie d'écrire un livre, il faut quand même derrière avoir en tête qu'on a un investissement financier.
Mais je ne dirais pas, il faut faire comme moi, hein. C'est très personnel, ça fait ce qu'on veut, ce qu'on attend.
Oui, bien sûr, mais il faut l'avoir en tête. Justement, quand tu as vu d'autres éditeurs, vous avez discuté de leur façon, chacun sa façon de faire.
J'ai pas vu d'autres éditeurs, mais j'ai parlé avec d'autres auteurs.
Non, auteurs, excuse-moi.
Oui, j'ai vu. On rencontre les mêmes problèmes, si on veut dire, ou
d'accord.
Les mêmes questions.
D'accord.
Et d'ailleurs, je peux le dire parce que même si ma maison d'édition écoute l'émission, parce que j'aurais dit les désavouer en disant qu'ils sont un peu chers. Mais par contre, ça se justifie par les services rendus.
Oui, voilà, il y a la qualité derrière, tu te sens soutenu.
Voilà, alors que d'autres, c'est moins cher, mais bon...
C'est comme tout, hein. J'ai envie de te dire, la qualité.
Oui.
Ok, bon, super Bruno d'être venu nous parler de ce deuxième livre.
Merci Bruno pour le partage d'expérience.
Oui.
Et puis,
c'est un plaisir de venir vous voir.
Oui, hein, parce que j'espère que vous avez tous entendu. Hein, c'est Bruno quand même de la première édition de radio de 30 minutes de bonheur.
Exactement.
Donc maintenant, tous les ans, il vient nous voir.
C'est bien. Bon, la prochaine fois, ce sera pour les nouvelles poésies.
Exactement.
Voilà, c'est en cours, on est d'accord. Alors.
C'est en cours d'édition. Il y a eu quelques nouvelles déjà d'écriture.
En cours d'écriture, d'accord.
Là, j'ai déjà quelques nouvelles, mais j'ai récupéré des nouvelles que j'avais déjà écrites, que je retravaille.
Okay.
Après, je vais en recréer quelques-unes, et puis poésie, pareil.
D'accord.
Donc ça y est, c'est parti, quoi.
Ce sera pour faire attendre le lecteur pour le troisième roman, parce que le troisième roman, il sortira qu'en 2025.
Ah, donc tu as déjà des projets de
troisième...
Je
sais déjà de quoi
je vais
parler. Ce ne sera plus Pierre Scotto, ce sera une autre période historique, mais ça va demander un boulot immense, et je veux petit à petit prendre mon temps, et voilà.
Très bien. Super. Bon, va falloir... On se laisse.
Oui.
On a bonne année à tout le monde quand même parce que
c'est vrai.
Et on se dit à très bientôt.
Merci et puis merci de m'avoir reçu et puis bonne lecture et puis écoutez si vous voulez quand même offrir un cadeau même si on aura passé Noël. Disparition en Bryce Canyon, ça plaît beaucoup et ça se lit très bien.
Super.
Merci Bruno, merci Sophie, à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.